Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Les puces M3 sont attendues au tournant. Les ventes de Mac sont dans les choux depuis le début de l'année et Apple a bien besoin du coup de booster de ces nouvelles puces pour relancer la machine. Il faudra quand même se montrer patient. En deuxième partie d'émission, on va recevoir Pierre qui va revenir sur son expérience interdite. Au mépris du danger, il a en effet installé l'application de Microsoft qui permet d'utiliser les e-messages de l'iPhone sur Windows. Bon, en fait, c'est pas formidable, il vous dira tout après le flash info. Nous sommes le mardi 16 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les premiers Mac équipés d'une puce M3 devraient sortir d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, a annoncé Mark Gurman ce week-end. Les puces M2 n'ont pas dit leur dernier mot, vu qu'un MacBook Air de 15 pouces pourrait débouler à la WWDC, et puis il reste encore la question du Mac Pro, toujours attendue cette année. Pour les puces M3, Apple aurait fait appel à une gravure en 3 nanomètres, et ça n'a l'air de rien, surtout par rapport à la M2 qui est gravée en 4 nanomètres optimisée, mais dans les faits, ça devrait permettre au futur système sur puce d'être plus performant et plus économe, enfin, on l'espère. Le Node N3 développé par TSMC donnera un coup de turbo dans ces deux domaines. On s'attend à 15% de rapidité en plus et jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Et pour l'année prochaine, Apple devrait faire appel à un procédé encore plus efficace, le Node N3E, avec des gains de performance encore plus importants. C'est tellement prometteur qu'Apple aurait réservé 90% des capacités de production de TSMC pour ses puces en 3 nanomètres. C'est aussi un moyen pour le constructeur de laisser la concurrence à l'écart le temps que TSMC et les autres fondeurs musclent leur capacité de fabrication. C'est un changement discret mais significatif qui s'est déroulé la semaine dernière durant Google I.O. Le moteur de recherche a parlé en long, en large et en travers de l'intelligence artificielle, de ses nouveaux appareils comme le Pixel Fold ou la Pixel Tablet, mais finalement assez peu d'Android 14. En fait, il n'en a quasiment pas été question alors que cette mise à jour est attendue dans le courant de l'été. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Google aurait lâché Android 14? Je vous rassure, bien sûr que non. Mais c'est vrai que les innovations et les nouveautés sont de moins en moins fournies avec les mises à jour du système d'exploitation. Elles sont en fait livrées directement dans les applications ou via Google Play Service qui est distribué plus largement. Tout ça pour dire qu'il ne faudra pas s'attendre à de grosses nouveautés dans Android 14. On l'a d'ailleurs bien vu avec les bêtas de Google depuis le début de l'année, ça ne se bouscule pas au portillon ou sinon à la marge. Ça sera presque un non-événement alors que du côté d'Apple, chaque nouvelle version d'iOS est une fête. On verra quand même ce qu'il en sera avec iOS 17, alors que les rumeurs nous annoncent pas beaucoup de nouveautés. On va rester avec Google qui a modifié sa manière de communiquer sur l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, Google publiait ses découvertes dans le domaine, dans des articles scientifiques. C'est quelque chose de très habituel dans le secteur, Apple fait d'ailleurs de même. Sauf que ChatGPT a tout chamboulé. OpenAI a en effet construit son bot sur un modèle de langage qui s'appuie lui-même sur une technologie imaginée par Google, baptisée Transformers. Transformers a été présenté publiquement en 2017. Il s'agit d'un système permettant d'agréger le sens des mots et tous les grands modèles de langage ont repris l'idée à leur compte. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas Google qui en a profité le premier. Au contraire, le moteur de recherche essaye de rattraper le temps perdu, quitte à mettre de côté les questions d'éthique. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est terminé, les chercheurs de Google devront obtenir l'autorisation de leurs supérieurs avant de pouvoir publier leurs articles. Dommage pour la communauté scientifique, mais dans le même temps, on peut se demander si ce n'est pas l'open source qui va emporter le morceau au bout du compte. Les recherches à ciel ouvert sur l'intelligence artificielles ne sont pas bloquées par des logiques d'entreprise ou de profit. Ce n'est pas impossible que ChatGPT, Bard et les bots propriétaires ne vont pas se faire doubler au bout du compte. Microsoft avait bien besoin d'une victoire dans le secteur des jeux vidéo et la Commission européenne lui a servi cette bonne nouvelle sur un plateau. Bruxelles a en effet donné son feu vert à l'acquisition d'Activision Blizzard King, une opération à 69 milliards de dollars. Voilà qui met fin à une série de revers pour le créateur de la Xbox. Après le four du jeu Redfall, très mal reçu par la critique et par les joueurs, une réception catastrophique suivie par les déclarations de Phil Spencer, le patron de Xbox qui a admis que Microsoft avait perdu la bataille. taille des consoles. Surtout, Microsoft avait reçu un gros coup sur la tête avec le no britannique à l'achat d'Activision. Le régulateur anglais s'oppose à la transaction, mais il reste encore un appel et Microsoft a encore une petite chance de réussir son coup de l'autre côté de la Manche. Microsoft a répondu aux principales objections de la Commission européenne, notamment en autorisant les jeux Activision à être jouables sur des services de streaming et ce pendant 10 ans. Microsoft a donc remporté une manche, mais la partie est loin d'être terminée. Il faut maintenant arracher le feu vert anglais et surtout la validation des autorités américaines de la concurrence, et ça, bah c'est pas gagné non plus. Dans Windows 11, il est désormais possible d'accéder aux e-messages de l'iPhone, d'en envoyer et de les recevoir, comme si l'application d'Apple était intégrée dans le PC. Enfin, ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, et comme va nous le raconter Pierre, c'est beaucoup plus compliqué et surtout pas tellement pratique. Salut Pierre.
Salut Mickaël.
Alors comme ça, pouf, tu t'es dit, tiens, je vais tester e-message sur PC, mais pourquoi ?
Pour plein de raisons. Bah, la première, c'est comme je viens de Canard PC Hardware, ouais, et que j'ai un PC à la maison, du coup, je suis un peu catalogué. la seconde, du coup, bah ouais, enfin voilà, ça vient de ça en fait, c'est que du coup, moi j'ai un PC, chez ma génération, du coup, je teste des trucs PC. Et ouais. D'ailleurs, dans une discussion avec Nicolas il y a quelques jours, il pensait vraiment que j'aimais utiliser Windows 11, quoi.
Mais t'aimes ça, allez.
Non, la réalité, c'est que le PC, il est éteint à côté de moi. Je l'allume que pour tester. Et donc, j'en ai profité pour tester les messages sur PC. Et la preuve que je l'allume que pour tester, c'est que Microsoft a eu l'idée bizarre de déployer ça de façon progressive. Donc, tout le monde n'a pas eu en même temps la fonction. Et donc, moi, pendant 2 semaines, j'ai allumé mon PC tous les matins pour lancer toutes les mises à jour pour vérifier est-ce que la mise à jour va arriver. Et un jour, c'est arrivé tout seul.
Alors, bah, comment est-ce que ça fonctionne, en fait ? Comment est-ce que ça marche ?
En fait, c'est pas du tout l'application de message sur PC. Faut pas croire ce qu'il raconte Microsoft et ce qu'on a pu voir un peu partout. En fait, c'est l'application mobile connectée. Alors, c'est pas une faute. Hein. L'application s'appelle vraiment comme ça. C'est une drôle de traduction de PhoneLink en anglais. Voilà. Donc ça sert à lier un PC avec un smartphone, à la base avec un smartphone Android. Ouais. Microsoft a ouvert ça aux iPhones très récemment, donc normalement si vous avez Windows 11, ça devrait avoir été poussé chez vous, parce que l'application Dixit Microsoft, ça doit être fait mi-mai pour tout le monde. Ça passe par une liaison Bluetooth, mais du coup c'est pas l'équivalent des messages en fait. Voilà, c'est... faut imaginer ça plus comme un autoradio qui reçoit les messages. Et d'ailleurs, le fait que ça passe par du Bluetooth, moi j'ai été bien embêté parce que quand je l'ai lancé, le programme il m'a dit faut du Bluetooth en fait.
Ouais.
Et mon PC de bureau il n'en avait pas parce que le PC de bureau c'est pas du tout généralisé.
Ah oui.
Donc j'ai dû chercher une clé Bluetooth. Heureusement j'en avais une qui marchait, ce qui n'était pas le cas de toutes. Et faut essayer une application côté iPhone. Une application Microsoft qui va se refaire que la première fois à faire le lien. Ouais. Et il faut espérer que la liaison se fasse du premier coup. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut scanner un QR code qui va lancer l'application sur l'iPhone. Et puis il va falloir aller dans les réglages de l'iPhone pour permettre au PC d'accéder à plein de choses via le Bluetooth. Donc genre les contacts, les notifications et tout ça. Donc c'est pas un truc où on pousse sur un bouton et c'est fait. Par contre, du coup, on n'a pas besoin d'entrer son compte iMessage.
Microsoft a prévenu que toutes les fonctions ne seraient pas disponibles, mais tu as quand même relevé un problème qui est assez embêtant, et même deux en fait.
Ouais, alors les fonctions de base en fait, on n'a pas les conversations de groupe, on n'a pas les images, on n'a pas les vidéos. Hein, donc, voilà. Les emojis s'affichent, mais du coup c'est ceux de Windows. Oui. Alors dans l'ensemble, la représentation est à peu près la même actuellement, mais par exemple à une époque, si on prenait l'emoji pistolet, chez Apple c'était un pistolet à eau, sous Windows, à une époque c'était un dessin d'un vrai pistolet, donc ça pouvait amener des contradictions, on va dire. Voilà. C'est des trucs qui ne feraient pas de changer, hein, parce que voilà, Microsoft peuvent l'annoncer comme ils veulent, mais en gros... comme je disais, ça fonctionne à peu près comme un autoradio. En fait, les messages passent par le Bluetooth entre l'iPhone et le PC. Ouais. Et ça, on ne voit pas les images. Le premier problème, c'est que du coup, il faut que l'iPhone soit à côté du PC, allumé. Il
Ouais.
faut pas être trop loin parce que bah, c'est du Bluetooth, donc ça porte pas non plus à des dizaines de mètres. Et bah, si le PC est éteint ou en veille, les messages vont pas passer l'un à l'autre. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de synchronisation. Il n'y a pas
Ouais.
d'historique. Donc les messages qu'on va écrire à un instant T, ok, ils apparaissent. Ceux qu'on a reçus avant, ils apparaissent pas. Ceux qu'on a reçus, si on est trop loin, ils apparaissent pas. Voilà. Alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès. Mais si on redémarre le PC, par exemple, on perd l'historique des messages, même ceux qu'on a écrits soi-même. Bon, c'est pas très clair chez Microsoft si c'est fait exprès ou pas.
Ouais.
Et le dernier problème, c'est que si jamais vous discutez, voilà, si vous commencez une conversation en écrivant sur l'iPhone, enfin depuis le PC, puis vous envoyez un message depuis un iPad, une Apple Watch, un Mac, un autre appareil connecté à message,
Ouais.
bah en fait, il apparaît pas.
Ouais.
Donc, on a vraiment que les messages qu'on a écrits depuis l'application Windows et ceux qu'on reçoit, mais même pas à chaque fois. Donc, en vrai, c'est surtout, on peut taper les SMS en fait avec le clavier du PC. Bon, c'est un peu inutile, hein, mais voilà, ça existe.
L'application mobile connectée a deux autres fonctions de notification et d'appel audio, mais ça aussi, bah, ça reste quand même assez bof, quoi.
Bon, la gestion des appels, c'est juste, ça sert à rien en fait. Ça récupère les contacts si on le laisse faire. Et du coup, on peut lancer un appel depuis le PC, mais enfin, on ne prend pas l'appel depuis le PC, c'est juste on a une jolie interface. On n'a pas vue numérique de téléphone.
Ouais.
On peut lancer un appel, mais l'appel, il passe direct sur l'iPhone. Donc, comme de toute façon, l'iPhone doit être à côté pour que ça fonctionne, c'est logiquement, bon, en fait, on peut le faire directement depuis l'iPhone, quoi. Faut... Bon, ça n'a pas de sens. Les notifications. C'est pas mal parce que elles apparaissent dans la zone de notification de Windows avec les mêmes limites, comme elles sont transmises en Bluetooth, bah faut que l'iPhone soit pas trop loin pour que ça marche. Donc celles qu'on reçoit quand on se déplace, quand on s'éloigne du PC, elles vont pas apparaître normalement. Moi, quand j'ai testé, j'ai redémarré l'iPhone pour vérifier si ça allait pas synchroniser des trucs. Et j'ai eu toutes mes notifications des 10 derniers jours qui sont apparues en boucle dans la zone
D'accord.
sans que je puisse vraiment les couper. Enfin, la seule solution pour les couper, ça a été de m'éloigner, attendre qu'il arrête et revenir. Donc, ouais, c'est un peu buggé.
Au bout du compte, on est quand même assez loin donc d'un e-message pour Windows. Pourtant, l'idée partait d'un bon sentiment, mais tant qu'Apple n'ouvre pas ses e-messages à d'autres plateformes, c'est le genre d'expérience qu'on aura.
Bah ouais, le problème, c'est que, enfin voilà, Microsoft voit un peu ça comme un e-message pour PC, c'est absolument pas le cas. Je veux dire, on en a parlé parce que c'est Microsoft qui le fait, que c'est intégré à l'OS. Dans l'article, j'explique, il y a plein d'applications qui font la même chose, il y a plein de développeurs qui ont fait des trucs comme ça, qui utilisent des API du Bluetooth pour ça. Ça viendrait d'un développeur lambda, allez, dans le meilleur des cas, on aurait fait une news, mais pas plus, quoi. Voilà. Après Microsoft, bah, ils ont fait avec ce qu'ils peuvent faire en fait. C'est ça le truc. C'est que Apple, ils ont décidé que iMessage, c'est une chasse gardée, c'est important. C'est les bulles bleues, c'est important, ça permet de dire j'ai un iPhone. Ils veulent absolument pas que d'autres personnes en profitent. On a déjà parlé. Ils ont déjà envisagé chez Apple, par exemple, de porter iMessage sous Android et une fois que ça a remonté, enfin, chez les directeurs, une fois que c'est monté assez haut de la hiérarchie, très clairement, on a dit non, vous faites pas ça. Alors, c'est logique, hein, ils veulent mettre en avant l'écosystème, mais en même temps, vu le nombre d'iPhones vendus dans le monde et le nombre de Mac, on se rend bien compte en fait qu'il y a une forte proportion d'utilisateurs d'iPhone que ça intéresserait, parce qu'ils n'ont pas un Mac, ils n'ont pas un iPad, ils ont un PC sous Windows. Et bah, ils peuvent pas en profiter.
Eh bien, merci pour ton sacrifice. Je sais que en tant que grand fan de Windows, tu as tout donné pour informer les lecteurs de MacG et nos auditeurs. Salut Pierre.
Salut Mickaël.
Et merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.